Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En RCA, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, déclare dans un communiqué ce jeudi prendre très au sérieux les accusations portées par l'évêque de Bangassou concernant de possibles abus sexuels commis par des casques bleus dans cette ville du sud-est du pays. Selon Mgr Juan José Aguirre, les casques bleus ont abusé et ont laissé enceintes de nombreux jeunes dans cette localité de 35 000 habitants. Accusation formulée par le prélat début mars à la radio espagnole ABC. Près de 1500 déplacés musulmans se sont réfugiés depuis mai 2017 dans l'enceinte du petit séminaire de l'évêché à Bangassou. Et ils sont protégés par des casques bleus, gabonais et marocains notamment, qui tentent d'empêcher des attaques par des milices anti-Balaka sur le camp déplacé. Les anti-Balaka tiennent Bangassou, frontalière de la RDC, depuis une attaque le 13 mai 2017 qui a fait 76 morts selon l'ONU. Une première enquête de la MINUSCA avait conclu qu'aucun élément tangible ne pouvait étayer les allégations d'abus sexuels. En RDC, le nouveau code minier au cœur du débat national. Le président Joseph Kabila a eu des consultations avec les opérateurs du secteur, une réunion qui a duré 8 heures mercredi. Christian Lusakweno de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, fait le point.
Le président de la République et les miniers se sont séparés en se promettant de se revoir pour élaborer avec le gouvernement la nouvelle réglementation minière. Le nouveau code minier sera promulgué très bientôt. Quant aux craintes émises par les miniers, les solutions seront résolues au cas par cas, a dit à la presse le ministre des Mines, Martin Kabouéloulou.
Nous allons porter ces problèmes au cas par cas et nous allons voir avec les commissions du gouvernement et ensuite nous porterons ces modifications à la confection du règlement minier.
Selon le ministre des Mines, les pourparlers ne se sont pas bien passés au début, mais se sont heureusement bien terminés.
Ils étaient de mauvaise humeur, hein, mais maintenant c'est bon, c'est ça qui les arrange.
Au palais de la Nation, Christian Lusakweno, Top Congo FM.
RDC toujours, environ 2500 réfugiés burundais dans le pays ont été escortés mercredi jusqu'au Rwanda par les casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo. Ces réfugiés craignaient d'être rapatriés au Burundi, Abdourahmane Dia.
Cela faisait deux mois qu'on était sans aucune assistance de la part du HCR ou des autorités congolaises. On vivait sous les menaces de nos voisins congolais et on craignait de se faire extrader vers le Burundi. C'est ce qu'a expliqué Dionysie Nyanoui, un de leurs porte-parole. Les 2579 réfugiés burundais ont parcouru à pied les 5 km séparant Kamanyola en République démocratique du Congo du poste frontière rwandais de Bugarama. En septembre dernier, 36 réfugiés burundais avaient été tués au cours d'affrontements avec des soldats congolais au sujet de l'emprisonnement de certains d'entre eux. Des dizaines de milliers de Burundais se sont réfugiés depuis 2015 dans l'est de la RDC pour échapper aux violences dans leur pays. Le Burundi traverse une crise politique depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat et sa réélection en juillet de la même année.
Au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, s'est entretenu pour la première fois depuis la présidentielle de 2016 avec des proches du principal opposant, Jean Ping, lors d'une réunion en vue des législatives prévues avant fin avril. La rencontre a eu lieu mercredi à Libreville. Jean Ping conteste toujours le scrutin de 2016 et se considère comme le président élu du Gabon. C'est la première fois que ses partisans ont des discussions avec des représentants du gouvernement du président Ali Bongo Ondimba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le RDR, le parti présidentiel, a annoncé ce jeudi que le projet de parti unifié pour diriger le pays sera bientôt une réalité, alors que son grand allié au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI, en a exclu l'idée avant les prochaines élections de 2020. La dynamique est en marche sereinement, nous avons la certitude que nous aurons le parti unifié très bientôt, a affirmé Alaïf Mamadou Touré, secrétaire général et porte-parole du Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Ouattara. Mais mardi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédier a affirmé qu'il présenterait un candidat à la présidentielle de 2020, estimant que le projet de parti unifié n'était pas d'actualité. Togo, au lendemain d'une déclaration de l'opposition dénonçant la poursuite du processus électoral par le gouvernement et annonçant la reprise de ces manifestations de rue, le gouvernement togolais dément l'existence d'un accord qui le contraindrait à suspendre le processus devant aboutir aux élections législatives et locales prévues pour cette année. Les précisions de notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Il n'y a jamais eu un accord qui stipule que la coalition cesse de manifester et qu'en retour, le gouvernement suspend le processus électoral. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Protection civile et de la Sécurité, Yark Damhan, prenant le contre-pied d'une des raisons évoquées par la coalition des 14 partis de l'opposition pour reprendre les marches. Le gouvernement togolais, en conférence de presse ce mercredi, a tenu à souligner que les législatives doivent se tenir très prochainement et qu'une suspension du processus électoral pourrait conduire à un vide juridique, ce que le gouvernement ne se permettrait pas. On ne se lève pas un matin pour organiser une élection, elle se prépare à laisser entendre le ministre Yak. Concernant les manifestations de l'opposition de la semaine prochaine, le gouvernement se veut ferme. Aucune manifestation n'est autorisée dans les villes de Sokodé, Bafilo et Mango dans le nord du pays. Les populations de ces trois villes sont plus heureuses sans les marches, a ironisé Yark Damhan. Rappelons que la coalition de l'opposition a appelé à 4 jours de manifestation de rue la semaine prochaine. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Hommage aux femmes avec la célébration ce jeudi 8 mars de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julumtap, nous parle à cette occasion de deux femmes qui se distinguent courageusement dans la lutte pour la promotion et le respect des droits humains dans le pays.
Maximilienne Gombe, la cinquantaine, a crevé l'écran en janvier 2015 quand le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a dénoncé en exclusivité les exactions de l'armée dans la région de l'extrême nord.
Dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les forces de défense et de sécurité ont fait l'incursion dans 2 villages parce qu'ils auraient entendu qu'il y aurait des complices de Boko Haram dans ces villages. Sans bien se renseigner, ils ont raflé les 2 villages. Tous les hommes et des jeunes. Et nous, on sait qu'il y a eu au moins 130 qui sont décédés dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées et qui ont été inhumées jusqu'à aujourd'hui. On demande toujours où, personne ne sait.
Pour Issa Tivou Mabakari, porte-parole du gouvernement camerounais, seules 25 personnes étaient portées disparues. À la tête du REDAC, depuis 2007, la publication de ce rapport, en collaboration avec Amnesty International, avait été suivie d'actes d'intimidation contre la directrice de REDAC et ses proches. L'avocate internationale camerounaise Alice Com, rencontrée à Douala par VOA Afrique, se souvient de ce temps de persécution vécu par Maximilienne Gombe.
Elle a été cambriolée plusieurs fois. Elle a fait l'objet d'agressions. On s'est attaqué aussi à ses enfants mineurs qui aujourd'hui sont obligés de faire leurs études et de passer leur puberté hors leur maman.
À Yaoundé, Cyril Roland Béchon, la trentaine, cumule déjà 7 ans d'expérience à la tête de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme. À plusieurs reprises, elle s'est sentie en danger dans l'exercice de ses activités. Cyril Roland Béchon, directrice Nouveaux Droits de l'Homme.
Après la sortie du rapport d'Amnesty International sur la torture au Cameroun, j'ai été séquestrée dans une compagnie de courrier express par des agents de renseignement. On vit au quotidien l'irruption des forces de sécurité et des autorités administratives dans nos bureaux, nous empêchant ainsi de travailler.
Le respect des procédures judiciaires pour des personnes interpellées pendant la crise anglophone et surtout la tenue d'un éventuel procès équitable pour 47 personnes extradées du Nigeria sont autant de thèmes qui retiennent actuellement l'attention de Cyril Roland de Béchon. Le gouvernement camerounais tarde encore à répondre à ses craintes et appréhensions quant aux présumées violations des droits de l'homme des concernés dont on ignore toujours leur lieu de détention. Mais pour les 2 militantes camerounaises des droits de l'homme, leur lutte se poursuit encore. Yaoundé, Emmanuel Julumtap, VOA Afrique.
Et vous terminez, la puissante industrie du tabac cible les populations vulnérables en Afrique et en Asie, où les régulations visant à limiter la consommation des cigarettes restent insuffisantes. Tel est l'avertissement lancé par des experts de la lutte contre le tabagisme ce jeudi à la 17e conférence mondiale Tabac ou Santé, qui se tient de mercredi à vendredi au Cap en Afrique du Sud. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.